si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons voyager en eau vive et écouter la voix d'un grand fleuve d'Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal. En compagnie de deux voyageurs, messagers à leur manière de ce fleuve africain qui déroule son long ruban bleu sur près de 1800 km. Depuis la Guinée et le Fouta Djallon où il tire sa source pour traverser le Mali et faire frontière entre la Mauritanie et le Sénégal jusqu'à Saint-Louis où il vient se jeter dans l'océan Atlantique. Et c'est ce voyage justement de la Guinée jusqu'à Saint-Louis qu'ont entrepris nos deux invités dans la fraîcheur de leurs 70 printemps, formant un étonnant duo nomade en noir et blanc franco-sénégalais. Avec d'un côté Yves Barrault, un ingénieur français polytechnicien tombé amoureux du fleuve, comme il l'écrit, qui partage sa vie entre le Sénégal et la France et qui depuis 2018 s'est lancé dans l'écriture et l'édition de plusieurs ouvrages de photographie sur le Sénégal. De l'autre, Djibril Sy, un photographe né à Dakar qui, après une vie trépidante de reportages, d'images et d'expositions, a posé ses valises et son studio à Saint-Louis, qui a pignon sur île. Avec eux, on va donc voyager Dendé Mayo, soit au fil de l'eau en poulard. Dendé Mayo, c'est aussi le nom du beau livre photo qu'ils viennent de publier ensemble aux éditions Tohubohu et autour duquel on se retrouve aujourd'hui. Avec Yves, dans nos studios parisiens, et Djibril, à distance, depuis Saint-Louis. Notre pirogue est prête, le voyage peut commencer. Yves Barrault, Djibril Sy, bonjour.
Bonjour Céline.
Bonjour Djibril.
Bonjour Céline.
Alors, au sujet de ce fleuve de vie et d'inspiration qu'est le fleuve Sénégal et sur lequel vous êtes partis tous les deux en voyage, vous parlez dès le début de votre livre des émotions qu'il a suscitées en vous, alors des émotions esthétiques, visuelles. Forcément, vous êtes tous les deux hommes d'image. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'abord, si vous le voulez bien, en ouverture de cet échange, du son ? Je me demandais quel serait, selon vous, le son ou les sons, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, du fleuve Sénégal. Djibril, vous qui êtes à Saint-Louis.
Oui. Le son, je pense à Mali Sadio, dont on a parlé dans le livre. Et il y a plusieurs artistes qui ont joué ce morceau-là. Mali Sadio, c'est-à-dire qu'il y a Mali, qui veut dire hippopotame, et Sayo, c'est le nom d'une jeune fille qui a lié amitié avec cet hippopotame-là, parce qu'elle venait tous les jours au fleuve, au bord du fleuve, faire son linge, laver ses habits, et ensuite elle nageait, elle s'amusait, et... Elle s'était liée d'amitié avec l'hippopotame qui, à chaque fois que Sayo vient, l'hippopotame sort pour s'amuser avec. Et donc, voilà, ils faisaient ça tout le temps. Les gens les connaissaient, que c'était un petit jeu qu'ils faisaient ensemble. Et malheureusement, il y a eu un jour, d'après l'histoire qu'on nous a racontée, un chasseur qui passait par là et qui a vu l'hippopotame plonger. Et c'est, pour lui, c'était comme si l'hippopotame allait agresser Sadio. Tu vois, et puisque c'était un chasseur avec son fusil, il a armé son fusil et a tué l'hippopotame. Et lui, il n'en savait rien, mais les autres étaient surpris. Et l'hippopotame est mort et Sadio était triste pendant des jours. Il n'a pas voulu manger et tout ça. Et donc, l'hippopotame est mort. Et c'est comme ça que c'est devenu un truc célèbre. Et les griots de l'époque en ont fait une chanson. Alors, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué. Parce qu'il y avait la tombe de l'hippopotame, justement, à la berge. Quand on descend du bac, on voit sa tombe. Alors, ça a été une histoire assez douloureuse. Et beaucoup de chanteurs maliens l'ont repris. Je crois que... Salif Keita a fait la reprise de cette chanson-là qui est très célèbre.
Donc voilà. Le son du fleuve, c'est à la fois une chanson, c'est aussi un conte et c'est une amitié et peut-être le son, le bruit d'un hippopotame. On commence en conte en tout cas avec vous, Djibril Sy. Avec vous, Yves Barou, quel son, selon vous, convoque le fleuve Sénégal ?
Dans le même sens, c'est un peu le bruissement de tous les gens qui chuchotent le long du fleuve, tous les gens qui parlent le long du fleuve, tous les gens qui racontent des histoires, des contes, des gens qui chantent. Il y a le Pécan plus loin, le Lambagada. Et puis, il y a une rencontre étonnante qu'on a faite, qu'il a fallu provoquer. À Pau d'Or, après avoir attendu très longtemps, on a pu rencontrer Baba Mal. Et Baba Mal nous a dit « Ah, c'est extraordinaire ce que vous faites, parce que je suis en train de finir une chanson qui est l'histoire d'une goutte d'eau. »
C'est le grand chanteur sénégalais, tout
c'est
couleur.
Le grand chanteur Peul sénégalais. Et il est en train de finaliser, elle va sortir très bientôt, une chanson magnifique. Il nous a fait écouter un prototype de l'histoire de la goutte d'eau qui se lève dans le Fouta Djallon, qui va prendre un petit déjeuner à Bafoulabé, puis qui déjeune à Matam, puis qui se réveille à Pau d'Or, et puis qui va passer la nuit, et qui arrivera au petit matin à Saint-Louis, et qui voit tous les gens, qui parle à tous les gens. Donc cette histoire de cette goutte d'eau, tous les bruits qu'elle a rencontrés, tous les bruits qu'elle a transportés, c'est un peu ça le fleuve.
Et c'est un peu finalement, Yves Barou, le voyage que vous avez fait, puisque vous êtes parti depuis la Guinée jusqu'à Saint-Louis. Et c'est le voyage aussi que vous nous offrez à travers votre livre. Comment vous est venue cette idée, cette envie de voyager au fil de l'eau ?
Je crois que l'envie première, c'était Djibril qui l'avait depuis longtemps. Il habite Saint-Louis, il voit le fleuve quasiment en face de chez lui. Et il lui a fallu 5 secondes à peu près pour me convaincre. Et on s'est dit, on va voir ce qu'il y a le long de ce fleuve, en commençant par le Fouta Djallon, parce que c'est un endroit, quand on a Saint-Louis qui est loin, qui est dans les montagnes, qui est un peu mystérieux. Donc commençons par la source.
Djibril, qu'est-ce qui vous appelait comme ça sur ce fleuve ?
Voilà, ce fleuve, j'en ai rêvé depuis très longtemps. Hein, parce que mon père, justement, il vient du nord. Il est du village de Cascas. Il nous racontait souvent des histoires concernant le fleuve, tout ça, sur le Pécan aussi. Ceux qui chantent le Pécan sont des poètes du fleuve et tout ça. Et ce sont des images qui me sont restées dans ma tête pendant longtemps. Donc c'est au moment où quand je suis arrivé à Saint-Louis et que je voyais ce fleuve-là devant moi tous les jours, ces images me revenaient petit à petit et je me suis dit qu'un jour, il va falloir que j'aille à la découverte justement de ce qu'il y a au-delà de ce fleuve-là. Et je peux dire que Yves m'en a donné l'occasion et lui-même, il m'a permis de faire un retour dans ce village-là, le village d'origine de mes grands-parents. Donc on y est allé. Et c'était, pour moi, c'était une grande émotion. Donc il fallait justement que je fasse ce retour-là aux sources. Et c'est Yves qui m'a permis de le faire.
Alors votre livre Dans des maillots est surtout un livre, on l'a dit, de photographie, principalement en couleur. Alors il y a des images de chutes d'eau majestueuses, de robustes pirogues de bois, de rives populeuses, de femmes penchées à leur ouvrage, que ce soit la lessive ou la vaisselle, d'hommes lançant les filets ou remplissant les bidons, d'enfants ou d'hippopotames, on en a parlé, qui s'y baignent. Mais il y a aussi dans votre livre du texte, le vôtre déjà, mais qui tient une place assez minime finalement, puisque vos mots s'effacent très vite devant tous les témoignages des gens que vous avez rencontrés durant votre voyage, alors qu'ils soient conservateurs, conteuses, agriculteurs, doyennes, chefs de village et j'en passe. Et puis, il s'efface aussi devant les mots d'experts que vous avez tenus à convoquer sur ce livre choral, finalement. Alors, parmi eux, il y a en particulier Yves Barou, le géographe et climatologue sénégalais Alioune Kane, qui est professeur à l'université Cheikh Anta Diop, qui est lui-même, finalement, un enfant de ce fleuve, avant d'en être devenu un spécialiste, éminent spécialiste.
Oui, il nous a semblé qu'il fallait qu'on ait des guides avec nous. Alors, on s'est un peu serré sur la pirogue, pour reprendre notre image, et on a essayé de mobiliser des universitaires de Dakar, de Saint-Louis, quelques autres d'ailleurs au passage, pour aller au-delà de la parole des gens qu'on rencontre, ça c'est très important, pour faire parler le portrait, mais d'avoir avec nous des gens qui pouvaient décoder. Et parce que quand on voyage, on se pose des questions. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on fait une photo, c'est forcément subjectif, c'est un regard personnel. Et nous avions des regards croisés entre Djibril et moi. Mais souvent, comprendre la photo suppose d'aller un peu plus loin. Donc il nous a semblé que sur les plans économiques, historiques, géographiques, de climat, il nous fallait quelqu'un qui allait nous éclairer, sans que ce soit par petites touches légères, mais pour que le voyage se passe bien.
Alors, c'est à Alun Khan donc, que revient la tâche dans votre livre, au début, de nous présenter ce grand fleuve, le deuxième plus long cours d'eau d'Afrique de l'Ouest, après le Niger. Donc, pour bien comprendre votre voyage sur ce fleuve, on va prendre une carte, puisque finalement, assez vite, on la retrouve dans votre livre, elle est nécessaire. Et on va regarder plus près ce fleuve. Déjà, il faut dire qu'il fait une courbe, puisqu'il part donc de la Guinée, qu'il remonte, ou plutôt il descend, on va dire, jusqu'à rejoindre le Sénégal, en passant évidemment, je l'ai dit, en longeant le Mali et la Mauritanie. Et puis aussi, ce qu'on apprend à travers les mots d'Alioune Kane, Yves Barou, c'est qu'il tire son nom, Sénégal, d'un malentendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de malentendu? Parce que alors, c'est une histoire qu'on raconte, un des mythes. Une mythologie peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, d'où vient le nom de ce fleuve, Sénégal?
Alors, c'est en tout cas l'histoire la plus souvent citée. Il y a tous les ethnies locales, des Portugais qui commencent à arriver, puisque ce sont les premiers qui investissent ces territoires. Et le dialogue entre les Wolofs et les Portugais doit être un peu limité au début. Et il y a eu une sorte d'incompréhension entre quelqu'un qui désignait sa pirogue et qui lui disait « ceci est ma pirogue ». Et ça, l'autre a cru qu'il lui parlait du fleuve. Et le mot Sénégal est resté à partir de là. C'est une des belles histoires.
Parce que Sounougal, c'est pirogue.
Voilà, Sounougal, Sénégal.
Alors, sachant que ça dit aussi, cette histoire, à quel point le fleuve aussi a été finalement le point de départ de l'entreprise coloniale, puisque c'est par là que sont arrivés, vous avez parlé des Portugais, mais ensuite évidemment les Français pour soumettre les peuples riverains dans les terres. C'est par là qu'ils sont passés. C'est ça que ça raconte aussi.
Bien sûr. Alors nous avons descendu le fleuve, mais en l'occurrence, à l'époque de la colonisation, il remontait le fleuve, remontait jusqu'à Podor, où il y a un fort important, où il y avait un comptoir commercial très important, et remontait à l'extrême point, au Mali, à Médine. Et les deux conservateurs avec qui on a longuement parlé, nous ont parlé avec une certaine émotion de cette histoire mêlée entre la France et le Sénégal, entre la France et le Mali. Pour eux, ce sont des histoires mêlées, ça fait partie de leur histoire. Ils ont les yeux ouverts sur tout, mais ils en parlent avec une grande tendresse, et j'allais dire une grande forme de réconciliation.
Djibril, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec les cours d'eau en général et avec celui-là aussi, avec le fleuve Sénégal, c'est qu'ils font fi des frontières. Et c'est ce qu'on découvre aussi sur ce fleuve, puisque je l'ai dit, il part de la Guinée et il arrose en quelque sorte quatre pays.
Absolument. C'est qu'il y a plusieurs sources au foot de Dialon. Ce fleuve ne vient pas d'un seul endroit, il y a plusieurs sources. Et après, il y a des embranchements qui se font. Il y a le Bafing et le Bakoy qui vont se rencontrer à Bafoulabé pour ensuite faire le fleuve Sénégal pour aller jusqu'à Saint-Louis. Donc il y a plusieurs ethnies qui sont là et surtout les Peuls, sur tout le long du fleuve, c'est la langue Peul qui est le plus parlée, n'est-ce pas? Et moi, mon père, il vient de là-bas, comme je le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de légendes qui viennent de là. Et c'est ça qui rend les choses assez intéressantes et variées.
Voyage en Guinée à la branche mère sur la rivière Bafin qui prend sa source dans le massif du Fouta Djallon à 960 mètres d'altitude. Votre voyage commence donc dans un Éden vert de forêt et savane arborée au son de tonitruantes cascades d'eau glissant du haut des falaises. Djibrissi, Yves Barou, le massif du Fouta Djallon, quelle merveille pour exercer un œil de photographe. Qu'est-ce qu'on y voit au juste?
Alors, Yves Barou. Dans le Fouta Djallon, il y a de l'eau partout, tout est vert. Mais par contre, quand on cherche la source, les sources du fleuve Sénégal, alors là, c'est un peu plus compliqué. Elles sont très cachées, largement inaccessibles, et volontairement, de cette manière, puisque la source est sacrée. Donc, année après année, ont été inventées, développées des légendes de méchants serpents, de diables, de ceci, de cela. Tout, l'objectif étant clair, de ne pas aller voir les sources pour ne pas les abîmer. Mais à la fin, nous avons rencontré Ibrahima, qui nous y a conduit, tout nous précisant que dans son village, dans son hameau, on révèle l'endroit de la source qu'à partir de 18 ans. À l'âge où on est sûr qu'ils ne feront pas de bêtises, il ne faut pas déforester à côté de la source. Donc la source est très moderne, très modeste, suivant les périodes de l'année, il n'y a pas toujours beaucoup d'eau. Mais en dessous de cette montagnette, il y a un grand lac de réservoir, où là, on voit que le baffing se forme et puis va pouvoir couler ensuite plus au nord.
Sachant que cette source vous a guidé justement Ibrahima Diallo, qu'on retrouve oui. dans votre livre en portrait, qui est quelque part le gardien des oui. lieux, finalement cette source, elle est aussi elle-même maintenant intermittente. On voit qu'elle est aussi victime à sa façon des bouleversements climatiques et de la sécheresse.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a un pan de montagne assez boisé. On parle de la source, en fait, il y a plusieurs affleurements d'eau, mais il y en avait un qui était historique, il y avait un grand arbre où tous les chefs d'État sont venus graver leur nom. Et du fait du dessèchement, il y a moins d'eau à l'endroit historique, et d'autres sources qui sont en contrebas sont un petit peu plus fournies. Mais quand on voit le lac qui est juste en dessous, ça devient un grand lac. Donc il doit y avoir une multitude de petits ruisseaux dans un endroit un peu inextricable, mais du coup qui donne une atmosphère... Le fleuve commence par quelque chose de mystérieux. Et ça va continuer.
Et alors, en chemin sur ce mystère, vous rencontrez des gens bien tangibles, mystérieux, je ne sais pas, vous allez me le dire. Il y a notamment les frères Camara. Alors, c'est toute une famille qui vit dans une concession que vous avez rencontrée à Koukoutamba, à un mot qui est situé sur une boucle du fleuve.
Oui. Koukoutamba, c'est dans le haut Bafing. On est presque au Mali. C'est une région très, très éloignée, qui est pour l'instant un espèce de conflit entre l'État guinéen qui veut, avec l'aide des Chinois, construire un barrage et qui va le faire, et le WWF français qui va avoir la gestion d'un parc national avec beaucoup de chimpanzés. Et donc il y a eu un gros conflit entre les défenseurs de la nature et les défenseurs du barrage. Tout ça dans un village que nous avions pris pour un village, parce que c'est marqué pour la carte, sur la carte. En fait, c'est marqué Chute de Koukoutamba, et il y a trois familles qui habitent là-bas. Donc, pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais ça existera dans quelques années.
Qui sont éleveurs, pêcheurs ?
Éleveurs, pêcheurs, oui. Éleveurs, pêcheurs. Là, Mamadou avait fait une petite plantation de bananes. Son frère Hassan était pêcheur sur le fleuve, juste en contrebas des chutes. Donc, ils nous ont parlé de leur activité, de leurs problèmes, de la concurrence de ceux qui venaient du Mali avec des grands filets qui leur prenaient tous leurs poissons. Enfin, des problèmes de la vie quotidienne. En tout cas, une région très enclavée. La piste est très, très mauvaise pour y aller. En fait, le seul équipement fixe, mais qui laisse entendre qu'il y aura bien un barrage un jour, c'est qu'Orange a déjà tiré un câble.
Alors, en parlant de barrage, le premier que vous croisez, bel et bien debout, c'est bien plus haut, c'est au Mali, à Manantali exactement, un ouvrage livré en 1988 qui, avec la centrale hydroélectrique construite après, ont fourni lumière, irrigation. Ce barrage a vu le jour grâce à une action concertée, modèle, on peut dire, entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie au sein de l'OMVS, qu'a rejoint plus tard, en 2006, la Guinée. En 2016, Madinba, alors secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, ou OMVS, était au micro de RFI et notre consoeur Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent.
Ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte qui a amené à la création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'était un contexte marqué par des inondations qui dévastaient les villages, qui alternait avec des sécheresses qui décimaient tout, qui faisaient qu'il n'y avait pas de vie. Il y avait des exodes, d'exodes ruraux. Le fleuve était devenue salée parce que la langue salée montait de Saint-Louis jusqu'à Podor sur 300 kilomètres. On ne pouvait plus boire de l'eau du fleuve, on ne pouvait plus faire de l'agriculture, le bétail n'avait plus de l'eau à boire. Les hommes d'État de l'époque ont pris conscience qu'il y a cette situation, il faut y remédier. Non seulement il faut y remédier, mais il fallait qu'au niveau, au plus haut niveau des États, qu'il y ait cette volonté politique de sceller ce destin commun. Parce qu'ils ont pris conscience aussi que seul, aucun des pays ne pouvait tirer le maximum de ce qu'ils souhaitaient du fleuve. Mais qu'ensemble, en mutualisant leurs efforts, ils pourraient le faire. Ils l'ont fait en créant l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le 11 mars 1972 à Nouakchott, avec quatre objectifs. D'abord, la navigation, l'eau potable, l'agriculture et l'énergie. Ça a donné beaucoup de choses parce que la ville de Nouakchott, qui était marquée jusqu'au début des années 2000, est alimentée actuellement à partir du fleuve Sénégal à 100%. Dakar, qui est alimenté aussi, 50% de ce que Dakar reçoit, soit 60 millions de mètres cubes par an, ça vient du fleuve Sénégal. Sur le plan de l'énergie, beaucoup de choses aussi ont été faites parce qu'il y a eu le barrage de Diama, qui est un barrage anti-sel, mais il y a eu le barrage hydroélectrique de Manantali, qui produit 200 mégawatts. Il y a le barrage de Felou, qui produit 60 mégawatts. Et il y a le barrage de Gouina, qui est en cours de construction, qui produit 140 mégawatts.
Barreau, Djibril Sy, on vient de l'entendre, le fleuve Sénégal, c'est un bien commun, stratégique aussi, un espace en partage qui relie et rassemble. Alors pour autant, tous ces grands ouvrages comme les barrages de Manantali en amont et celui de Diama en aval, situé au Sénégal, ces ouvrages bouleversent quand même les écosystèmes. Ils ont d'énormes conséquences pour toutes les populations du fleuve. Djibril Sy, c'est ce que vous avez pu voir tout au long de votre voyage. À quel point les populations sont impactées par ces grands ouvrages?
Absolument. Les populations en elles-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord avec toutes ces infrastructures-là, parce que avec l'industrialisation, les tas de choses qui se passent, évidemment, on sent même que le débit du fleuve est en train de baisser et que finalement, il est difficile de trouver du poisson dans le fleuve. Nos hydrauliciens, je ne sais pas, tout ça, ils peuvent sensibiliser les gens, leur faire comprendre certaines choses. Mais quand il y a des grandes firmes qui viennent, j'en sais rien, chercher de l'or, faire des choses, et tout ça, ça impacte, n'est-ce pas, sur le fleuve.
Alors une chose est sûre, en tout cas au sujet du barrage, c'est qu'ils ont eu pour effet notamment de faire proliférer un végétal, un roseau, le typha, qui a effectivement envahi, puisque c'est une plante endémique, qui prend toute la place, qui est invasive, qui a effectivement empêché la pêche, qui provoque aussi des maladies hydriques. Et vous avez vu justement des villages, des hameaux, Yves Barreau, avec des personnes justement très affectées par cette maladie qui s'appelle la biliarsiose.
Les effets du barrage, il y a du très bon et il y a du moins bon. Le très bon, c'est que de contribuer à l'électrification de l'Afrique, qui est un enjeu premier, sans recourir à des énergies carbonées. Donc ça, c'est essentiel et ça sera de plus en plus. C'est excellent pour l'irrigation et toute l'agriculture, tous les agriculteurs s'en félicitent. Les pêcheurs, Djibril l'a dit, grogne un peu, disant qu'il y a moins de poissons, c'est probablement vrai. Et c'est vrai que le barrage anti-sel de Diama, en empêchant le sel de remonter, a permis un nouveau développement de la biliarsiose tout le long dans la basse vallée du fleuve, là où autrefois le sel, puisque le sel remontait sur 100 km, maintenant il remonte toujours dans la souterraine, mais en surface il ne remonte plus. Donc il y a des choses à gérer comme ça. Mais moi, je dirais, faut quand même revenir à l'essentiel, qui est le besoin d'électrification. L'Afrique vit dans le noir. Il faut électrifier des villages et le faire sans énergie carbonée. Et les barrages, comme la centrale solaire qu'on a pu voir aussi, sont le fleuve est riche d'énergie verte.
Tout de suite, on va faire une pause musicale. Et vous en avez parlé, Yves Barou, qui mieux que le grand artiste tout couleur Baba Mal pour chanter les louanges du fleuve Sénégal, au bord duquel il a grandi, à Pau d'Or. Vous l'avez rencontré et il apparaît en bonne place aussi dans votre livre. Tout de suite, on l'écoute avec Fleuve Sénégal, tiré de son dernier album, C'est la vie.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Avec le son puissant du Pékan, chanté ici par le légendaire Gelaï Halifal, on continue à si loin si proche notre voyage sur le fleuve Sénégal. Toujours en compagnie d'Yves Barou et Djibril Sy, auteurs d'un beau livre de photos paru aux éditions Tohu Bohu, qui à travers leur périple, depuis la Guinée jusqu'à Saint-Louis sur le fleuve, s'efforce finalement de nous faire entendre la voix de ce grand fleuve. Une voix qui pourrait être celle-là, celle du Pékan qu'on vient d'entendre, soit une poésie épique, aux allures de slam, typique des pêcheurs peuls de la vallée du fleuve Sénégal. Djibril Sy, vous en avez parlé de ce Pékan en ouverture. C'est non loin de Pau d'Or, au Sénégal, que vous avez pu écouter ce chant si particulier. Qu'est-ce que c'est au juste ?
Alors, c'est de la poésie, hein, parce que malheureusement, j'aime pas le dire, mais je parle très mal le Poula, pour ne pas dire que je n'en parle pas du tout. Mais le Pékan manifeste le fleuve lui-même, les animaux qui vivent dans l'hippopotame, le caïman, des choses comme ça. D'ailleurs, les caïmans qu'on ne trouve plus dans le fleuve Sénégal, malheureusement, je dirais. Hein. Mais bon, c'est une manière de magnifier ce fleuve Sénégal, là où il s'est passé beaucoup de choses. Parce que l'île Amorphile, c'est là-bas où vit Souleymane Mall. L'île Amorphile, moi j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, mais en réalité, ça voulait dire dent d'éléphant. Dent d'éléphant. Bon, je ne savais pas qu'il existait des éléphants dans le Fouta, et en fait, c'est vrai, ça a existé dans le temps. Donc on ne trouve plus d'animaux sauvages dans ce fleuve-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, voilà, c'est une manière de magnifier tout ce qui s'est passé au bord de ce grand fleuve Sénégal.
Sachant que, si je ne me trompe pas, le chanteur de Pékan, c'était en quelque sorte un intercesseur entre les hommes et le monde fluvial, avec effectivement toute cette faune, les crocodiles, les hippopotames. C'était lui qui, et c'est lui, qui dialogue encore avec les eaux, en quelque sorte, puisqu'il est convoqué pour des grands événements.
Exactement. On les appelle les Tchoubalos. Les Tchoubalos, ce sont les gens qui ont ce sont des pêcheurs qui utilisent le fleuve.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces chanteurs, toutes ces traditions de poèmes, de chants, qui parlent au fleuve, mais ils parlent aussi aux riverains. Et qu'est-ce qu'ils leur disent aux riverains? Ils leur disent respectez le fleuve, ne polluez pas, respectez les arbres. En fait, c'est un message très ancien, mais c'est un message d'une grande modernité écologique. C'est ça ce qui est tout à fait étonnant dans tous ces chants qu'il faut se faire traduire, parce qu'on ne les comprend pas spontanément, mais c'est vraiment de l'écologie avant l'heure.
Alors, Djibril, vous l'avez dit, sur cette île amorphile, enserrée donc, entre le bras principal du fleuve Sénégal et un plus petit bras, le Doué, c'est là que vous avez cherché vos racines, votre famille, ou en tout cas ce qu'il en reste, des cousins peut-être. Est-ce que vous les avez retrouvés ?
Oui, on en a retrouvé. D'ailleurs, Yves en est témoin. On est allé jusqu'à Bogué. En fait, c'est Demet. Il y a le village de Demet. En face, il y a Bogué. Et Bogué est un village qui se trouve en Mauritanie. Et mes parents Poulard sont de ces deux villages-là, de Bogué et de Demet. Et quand on est arrivé là-bas, on a demandé. Il y avait des pêcheurs là, au bord du fleuve. On leur a demandé. Ils nous ont dit, justement, il y a un certain si qui est l'animateur là, qui parle à la radio de Demet. Et en ce moment-là, il est en ligne. Donc, il faut peut-être que vous pourrez le trouver là-bas. Et effectivement, on y est allé. On a attendu qu'il termine. Et je l'ai vu. Moi, physiquement, je ne l'avais jamais vu, en fait. Mais quand on s'est parlé, j'ai parlé de mes tantes, de mes parents, lui aussi, ainsi de suite. Et tout de suite, on s'est embrassés. On comprenait que, voilà, on s'est retrouvés.
C'était une journée très émouvante, qui a été un peu plus compliquée que ce que raconte Djibril tout de suite. Parce que l'île Amorphile, ça fait 60 km de long. C'est beaucoup de villages. À peu près le tiers de la population doit s'appeler Si. Donc chercher un Si dans l'île Amorphile, ça s'avérait comme une tâche assez complexe. Donc on a erré de village en village avant de tomber, peut-être par coup de chance, sur ce gars qui était à la radio. Donc en tout cas, il était écrit que ça devait marcher.
Mais ça dit aussi, Djibril, que vous aussi, vous êtes un enfant de ce fleuve, même si vous êtes né à Dakar.
Bien sûr, je suis un enfant de ce fleuve et ça, je le reconnais de par mon père qui est Tchoubalo. Et figurez-vous, ma mère aussi, elle est du village de Ngor, qui est à Dakar. Elle aussi, elle est issue de famille de pêcheurs, mais pêcheurs de la mer. Vous voyez, donc, entre mon père et ma mère, c'est une histoire d'eau. Ils se sont retrouvés à Dakar. Donc, voilà, moi, l'eau, pour moi, c'est quelque chose de très symbolique.
Alors, dans cette région du Foutatoro, c'est aussi de là que vous montez à bord d'un bateau mythique dont la corne de brume a longtemps rythmé le quotidien des peuples des deux rives sur le fleuve. Ce bateau, c'est le Bou El Mogdad, un bateau de Saint-Louis, jadis navire de ravitaillement et transport dans les années 50 et remis en service en 2005 pour les touristes entre Podor et Saint-Louis. Alors, il porte le nom de l'interprète et explorateur saint-louisien qui accompagnait au 19e siècle les gouverneurs de l'administration coloniale. Et en 2018, le grand historien sénégalais Ibrahim Atioub est monté à bord de ce bateau de croisière avec notre consoeur de la Marche du Monde, Valérie Nivelon. Et voilà depuis le pont ce qu'il y voyait.
Là, nous avons pris le Bou El Mogdad qui va partir sur Saint-Louis. Et c'est ma première fois sur un navire. Et donc, de faire ce passage sur le fleuve qui a été des milliers et des milliers de fois fait pendant ces siècles derniers. Je pense juste en regardant à droite, c'est le Sénégal. Et quand je regarde au loin sur ma gauche, j'aperçois la Mauritanie. Donc la colonisation en a fait un espace frontalier, alors que avant la colonisation, c'est une continuité culturelle, une continuité politique, une continuité anthropologique très forte. Et on a tendance à oublier ces continuités au bénéfice de la discontinuité introduite par l'ordre colonial et peut-être même antérieurement à l'ordre colonial, les discontinuités introduites par la traite avec la constitution des micro-États qui se sont substitués au grand empire du Djolof. Et donc, nous sommes dans le Fouta, la moyenne vallée du Sénégal, et nous nous dirigeons vers l'embouchure, le Wallo, le pays amphibie. Donc on a cette sensation du liquide, l'eau qui joue un rôle extrêmement important dans l'imaginaire politique, social. Ici, tous les génies sont des génies d'eau et nous allons vers le pays du génie d'eau qui s'appelle Mamkoumbalam.
Yves Barrault, à bord du Bou El Mogdad, on saisit, comme vient de le dire Ibrahim Atchoub, à quel point le fleuve relie et irrigue, en fait, telle une veine d'eau, les imaginaires et puis les réalités aussi. À bord de ce bateau, on pense aussi forcément, et je suis sûre que vous y avez pensé, à la grandeur passée de la navigation sur le fleuve. À une époque où, en fait, on naviguait jusqu'en Mauritanie, jusqu'au Mali même, ce que les anciens vous ont raconté durant votre voyage, où ils vous ont évoqué comme ça le fantôme de ce bateau, le Bou El Mogdad, puisqu'on ne navigue plus jusque-là.
Nous étions effectivement à Tocomadji, petit village mauritanien.
Donc là, on est redescendu.
Voilà, on était presque arrivé au Mali, et en face de Matam, au Sénégal. Et à un moment donné, un vieux qui était là nous dit « Ah, moi, mon meilleur souvenir, c'est la sirène du Bou El Mogdad ». On l'entendait arriver de loin, tout le village se précipitait sur la rive et c'était comme ça dans tous les villages. Le bateau était toujours accueilli par tout le monde. Donc pour lui, c'est un rêve magique, rêve qui va peut-être rebondir puisque l'OMVS, vous en parliez, envisage dans les années qui viennent de rendre le fleuve navigable de nouveau jusqu'à Kaye, ce qui changera beaucoup de choses pour le Mali, pour le Sénégal. Et gageons que ce jour-là, il y aura plus qu'un bateau qui parcourra ce grand trajet du fleuve. Après, ça sera impossible. Après, il y a des chutes d'eau. Après, c'est impossible. Mais jusqu'à Kaye, plus de 1000 km, ce sera déjà une très, très belle navigation. Pour l'instant, il y a la moitié qui est possible jusqu'à Pau d'Or. Mais ça sera un magnifique trait d'union et sûrement un rôle économique, culturel tout aussi important. Mais c'est merveilleux que ce bateau existe encore et soit le témoignage de ce passé, quoi.
Parce que c'est le seul bateau à naviguer sur le fleuve.
C'est le seul bateau. Il y a des petites embarcations, des petites pirogues, mais de vrais bateaux, de grands bateaux, c'est vraiment le seul. Donc il tient le flambeau. Spécialement difficile en ce moment, ces années de Covid, mais il tient le flambeau et je pense qu'il y aura d'autres bateaux sur le fleuve dans quelques années et que ça va changer beaucoup de choses le long du fleuve, non seulement d'un pays à l'autre, mais de l'amont à l'aval. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça produira. Toutes les gravures anciennes, on voit des tas de bateaux qui arrivent à Saint-Louis, sont toujours étonnantes. Une activité débordante à Caille comme à Saint-Louis. Donc, mais toute une région, on a au fond un fleuve qui cherchait son débouché maritime, qui ne l'a pas trouvé et qui pourrait le retrouver maintenant. Et bien sûr, il y a des tas de questions sur la gestion de l'eau, mais c'est un très beau symbole d'un trait d'union retrouvé.
Alors justement, vous nous emmenez de vous-même jusqu'à Saint-Louis, puisque c'est la fin de votre voyage. Vous arrivez après le passage du barrage de Diama. Saint-Louis, ancienne capitale de l'Afrique occidentale, une grande ville d'histoire, de patrimoine, classée par l'UNESCO, mais aussi et surtout une ville d'eau, entre eau douce et eau salée. Et c'est ce que l'on saisit, Djibril Sy, dans vos images, en particulier avec vos photos de Saint-Louis vue du ciel.
Saint-Louis, c'est une ville de rêve. Moi, quand je suis revenu à Saint-Louis, voir mes origines. Et après quelques séjours, je me suis dit, pourquoi pas quitter Dakar et rester à Saint-Louis, parce que c'est une ville inspirante, les choses se passent bien, c'est moins stressant que Dakar.
Alors, sachant aussi que le fleuve longe, en fait, aussi l'océan, et il est juste séparé par cette fameuse langue de barbarie. Et ça dit aussi à quel point cette ville vit au rythme à la fois du fleuve, son embouchure, et puis aussi de la mer, de l'océan Atlantique. Et c'est vrai, vous l'avez dit, vous, Djibril, vous vivez maintenant dans cette ville et sur l'île depuis déjà de plusieurs années. Et donc, c'est un regard intime de l'intérieur que vous offrez sur cette ville, au plus près forcément de tous ces gens qui vivent au plus près de l'eau. Les pêcheurs, les femmes transformatrices de poissons.
Bon, à l'origine, semble-t-il que c'est juste une monticule de terre qui était là et que les Africains n'y habitaient pas. Parce que nous avons des croyances, de par ma mère, les Bou. Tout ce qui est île, on n'y habite pas, parce qu'il y a certaines choses qui y sont. Mais c'est quand les Européens sont arrivés, eux, ils ont occupé les îles. Et c'est parti de là. Hein. Ça, c'est ce que j'en sais, hein. C'est ce qu'on me raconte. Je n'y étais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Alors, il est posé sur cette monticule de terre-là. D'ailleurs, il y en a qui disent que, vu de haut, c'est comme des lettres arabes. Qui veulent dire Dieu, Allah, quand vous le voyez de travers. Tout ça, ce sont des croyances que les gens disent.
Yves Barraud aussi, il y a une chose très particulière à Saint-Louis, c'est que le paysage change aussi. C'est-à-dire que déjà, l'embouchure se déplace. Vous-même, c'est ce que vous racontez, vous avez eu du mal à la trouver. L'embouchure du fleuve Sénégal. Donc finalement, on sent que le territoire est en mouvement. Vous allez nous expliquer peut-être pourquoi et comment.
Alors, il y a un phénomène très, très étonnant, très beau d'ailleurs, c'est cette immense flèche de sable. Il y a d'autres flèches de sable, puisque le fleuve, arrivant droit sur la mer, a comme une hésitation la dernière seconde et ne franchit pas le petit banc de sable de 100 mètres, mais va le longer pendant une quarantaine de kilomètres pour enfin se décider à se jeter dans l'océan. En fait, c'est l'océan qui jette dans le fleuve parce que l'eau salaine remonte beaucoup plus. Historiquement, cette embouchure, elle s'est déplacée sur d'une trentaine de kilomètres sur un cycle de 30 ans. Donc, elle n'était jamais vraiment au même endroit. La mémoire, des fois, l'oubliait, mais ça revenait. Tout a été changé, tout a peut-être été changé par une brèche qui a été faite peut-être un peu dans la précipitation en 2003 avec la crainte que Saint-Louis soit inondé.
Dans cette langue, justement, oui. De barbarie, comme on l'appelle.
Oui, comme il y a, sur certains endroits, 50 mètres, 100 mètres, c'est presque plat, une vague pourrait aller au-delà, cette brèche s'est élargie très vite. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis un an, il y a une photo dans le livre de cette embouchure qu'on a fait avec un drone, ben c'est la seule manière de la faire, et ben, on est repassé au même endroit, et on a constaté que l'embouchure s'est déplacée en un an de 2,5 km. Donc, il y a une intervention humaine, mais peut-être la nature va reprendre ses droits. Et moi, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que le fleuve, j'ai dit, il part par une espèce de mystère sur les soupes. Il y a ensuite des méandres à n'en plus finir, parce que ce fleuve, il est quasiment plat. Donc, c'est des méandres partout, avec des légendes partout. Et même l'arrivée est toute une histoire, parce que la localiser, elle bouge, ça pose des problèmes aux pêcheurs. Et tout ça dans un contexte où la ville de Saint-Louis, toute la région de Saint-Louis est très très menacée parce qu'elle est construite au ras de l'eau et que la plage qui la protégeait, qui était assez large, on nous raconte qu'il fallait prendre une calèche pour aller au bord de l'eau, donc il y avait peut-être 3-4 kilomètres. Maintenant, les premières maisons se sont écroulées. Donc
l'océan monte.
L'océan monte et on sait que nous n'en sommes qu'au tout début. Donc clairement, le site de Saint-Louis, le delta du fleuve sont menacés.
Alors, je crois savoir que c'est d'ailleurs pour vous et Djibril la suite de votre voyage finalement sur le fleuve. Maintenant, c'est le delta, c'est ça, c'est le projet d'un prochain livre.
C'est le projet effectivement parce qu'il y a quelque chose de très émouvant de se dire que nous voyons des paysages qui vont peut-être disparaître. Et c'est une chose de parler de transition énergétique, de réchauffement climatique, mais il faut le concrétiser. et voir une région, et c'est pas que des paysages, c'est aussi 400 000 personnes qui vivent là, qui est à la menace claire de montée des eaux, c'est tout à fait touchant et ça permet d'aborder ces questions avec peut-être un sentiment d'urgence peut-être un peu plus grand.
Alors Djibrissi, pour conclure, on a parlé de disparition. Le fleuve Sénégal, lui, c'est un petit peu tout l'inverse. Il essaye au contraire de renaître de ses cendres, de nouveau être une voie navigable. Développement, c'est un peu le maître mot. Et vous, vous y croyez, c'est ce que vous dites justement à vos étudiants.
Ah oui, j'y crois dur comme fer, parce que on a intérêt d'ailleurs à y croire et faire croire ça aux jeunes, leur montrer des perspectives, parce que c'est des jeunes qui veulent se faire. Mais malheureusement, toutes les images qu'ils reçoivent leur viennent de l'extérieur. Et ils rêvent de l'extérieur, d'aller au-delà. Alors qu'ici, au Sénégal, il y a des choses à faire. Absolument, je ne dirais pas que le terrain est absolument vierge, mais pour un jeune de ce niveau-là, il y a énormément de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va redevenir des paysans, mais il y a plusieurs opportunités. Moi, ce que je pense, c'est que Saint-Louis est devenu très étroit. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des bateaux qui puissent aller vers Podor, jusqu'au Mali, jusqu'à Kaï, pour que les voyageurs, les gens qui ont des origines du fleuve, puissent aller revoir ce qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Comme moi, à Dakar, il y a beaucoup de jeunes qui végètent, qui ne font rien, et que dans cet endroit du Sénégal, il y a énormément de choses à faire. Vous voyez, donc l'immigration, à mon avis, c'est parce que les jeunes n'ont pas découvert exactement ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal. Et le fleuve Sénégal donne une occasion d'aller à l'intérieur, n'est-ce pas, du Sénégal, aller au-delà de ce qu'ils savent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui perdent leurs origines parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Ils ne peuvent pas voyager comme ils veulent. Donc voilà. Et ce fleuve-là, je pense que c'est une opportunité pour ça, pour permettre aux jeunes d'aller découvrir des choses. Moi, je le dis souvent à mes étudiants qui font de la photo, ceux-là font de la vidéo. Et tout. Je leur dis très souvent, pendant vos vacances, il faut en profiter, aller visiter l'intérieur du pays. Mais rester juste à Dakar ou dans les grandes villes, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a beaucoup d'opportunités dans le Sénégal. Moi, à mon avis, c'est ça. Il faudrait inciter les jeunes à aller voir ce qui se passe à l'intérieur du pays.
Finalement, c'est une invitation au voyage.
Absolument une invitation au voyage, ça c'est clair. Parce qu'il faut qu'on apprenne à voyager chez nous, au lieu toujours d'essayer de voyager à l'extérieur. Et ce qui ne nous grandit pas, en fait, il y a des choses extrêmes à faire ici, en tout cas au Sénégal. Et ça, j'invite les jeunes à beaucoup y réfléchir. Les images que nous fabriquons, c'est justement fait pour ça, pour les faire rêver. Parce que pour créer quelque chose, il faut commencer par le rêve. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Voilà.
Djibrissi, merci. Je pense que la jeunesse sénégalaise qui nous écoute a entendu en tout cas votre invitation.
Merci. Merci beaucoup.
Yves Barou, merci.
Merci. Il y a de la place dans la barque. Vous pouvez embarquer.
Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Dans des maillots, en descendant le fleuve Sénégal » paru aux éditions Tohu Bohu. Et je rappelle que tous les bénéfices de la vente de ce livre sont reversés au profit de la LIAN, une association de solidarité franco-sénégalaise. Merci à l'université Gaston Berger qui nous a permis d'assurer la liaison avec vous, Djibril, depuis Saint-Louis. Céline Develay-Mazurel, Laura Larry, on vous souhaite, auditeurs, une bonne semaine à l'écoute de RFI. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de nouveaux voyages.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.